Donc à présent, nous allons donner la parole à Natacha O'Haraud, qui est psychologue clinicienne libérale et docteur en psychologie, qui a été invitée par le parcours de psychologie et l'éducation.
Alors bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, avant de commencer, je tenais à remercier, je ne sais pas si tout le monde m'entend, l'ensemble des organisateurs et organisatrices, avec une petite mention spéciale pour Maïva, qui se reconnaîtra, je ne sais pas où elle est. Voilà, super. Je suis ravie d'être parmi vous, du coup en présentiel. Alors moi j'habite Caen, donc ça a été un peu plus facile. Donc je suis Natacha O'Haraud, je suis docteure en psychologie. J'ai réalisé une thèse sur les problématiques de violence scolaire et notamment de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement. Donc on est plutôt pas mal pour la thématique. Je l'ai soutenue ma thèse en 2018 et bien évidemment je continue les travaux de recherche, que ce soit au niveau des modèles théoriques et des applications cliniques. Quand je ne suis pas en recherche, je suis psychologue clinicienne, donc j'exerce en cabinet libéral, également en pédopsychiatrie, en service de pédopsie. Et moi, je suis psychothérapeute en thérapie émotionnelle cognitivo-comportementale. Donc voilà, ce que je vais vous présenter aujourd'hui va être sous ce versant cognitivo-comportemental. Mais j'ai essayé de vulgariser au maximum pour que tout le monde puisse un petit peu s'y retrouver. Alors... Donc aujourd'hui au programme, ce que je vous ai concocté, c'est un petit point du coup sur tout ce qui va être pris en charge du cyberharcèlement par l'éducation nationale. Et je me suis basée sur les données en 2022, puisque moi j'interviens dans le cadre du master psychologie de l'éducation. Je vais également faire un point sur tout ce qui va être autour du repérage de ce cyberharcèlement en milieu scolaire. Je vais aller un petit peu plus loin et un petit peu plus en profondeur que ce qu'on a pu entendre avec le professeur, avec Monsieur Michel tout à l'heure. Donc je vais beaucoup parler de tout ce qui va être motif de consultation et faire le parallèle avec les conséquences du coup sur la santé physique et mentale des élèves victimes. Alors le temps qui m'a été accordé est court, mais en cas de besoin, j'ai des petites slides de préparer pour le côté un peu plus harceleur. Je vais faire un gros focus sur les compétences psychosociales, à la fois pour illustrer les conséquences sur la santé globale des victimes et pour faire un parallèle avec ce qu'on va proposer en clinique pour pouvoir prendre en charge ces élèves victimes. Donc j'ai prévu de vous parler un petit peu d'une ancienne patiente à moi, Léa. Alors je vais essayer de ne pas me tromper parce que j'ai changé le prénom, du coup pour garantir l'anonymat bien évidemment. Et je terminerai par vous parler des prises en charge un petit peu plus collectives auprès de ces jeunes, de leur famille et un petit peu plus de façon élargie pour les professionnels. Et je vous laisserai ensuite quelques éléments de bibliographie et des ressources. Alors par rapport à ce que l'éducation nationale propose pour lutter contre ce fléau qu'est le cyberharcèlement, on va commencer par la ligne d'appel nationale spéciale cyberharcèlement, donc le 3018. À ne pas confondre avec le 30-20 qui est pour le harcèlement scolaire un peu plus, que moi j'appelle traditionnel, donc au sein des salles de classe. Donc c'est une ligne d'appel qui va avoir une visée d'écoute anonyme, bien évidemment, qui va également servir à véhiculer des informations et des conseils pour les jeunes, les professionnels et leurs familles. Et c'est grâce également à ces professionnels qui sont derrière le téléphone qu'on va pouvoir lancer des dossiers pour pouvoir retirer certains contenus illicites en ligne. L'éducation nationale propose également la mise à disposition d'un annuaire de contact pour pouvoir joindre ce qu'on va appeler des référents académiques. Donc ce sont des personnes qui travaillent exclusivement au sein des académies. Et ce sont des référents qui vont être étiquetés harcèlement. Donc ici, je mets les guillemets et le petit astérisque pour vous pointer du doigt que, en fait, souvent, sur les plateformes de l'éducation nationale, on va peu parler spécifiquement du cyberharcèlement. On va mettre le cyberharcèlement dans l'étiquetage harcèlement. Donc grâce à ces référents académiques, les familles vont pouvoir signaler ces situations pour qu'ensuite la prise en charge, les protocoles se déclenchent derrière. On va également avoir tous les ans un prix qu'on va appeler non-harcèlement scolaire, qui est proposé à l'ensemble des établissements collèges, lycées. Et en fait, les élèves doivent, par petits groupes, réaliser des vidéos qui seront ensuite déposées sur les plateformes en fait, de l'éducation nationale. Et c'est la vidéo lauréate tous les ans qui va servir à la campagne de sensibilisation et de prévention pour l'année d'après. Donc celle pour cette année, 2023, ça va être « Et l'autre ?» Et si l'autre, c'était toi ? Et là, ça me fera faire le petit parallèle ensuite avec les compétences psychosociales. Depuis septembre 2021, l'Éducation nationale propose ce qu'ils ont appelé le programme phare. Donc moi, c'est un programme dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir apporter mes expertises un peu plus de recherche. Donc j'ai été amenée à travailler avec la délégation interministérielle de lutte contre les violences scolaires à Paris. Et ce programme phare a pour objectif de former une communauté protectrice autour des élèves, de rédiger et mettre en œuvre un protocole de prise en charge des situations de harcèlement dont fait partie le cyberharcèlement. C'est à ce niveau-là qu'on va aussi mesurer le climat scolaire à travers des enquêtes de victimation. L'éducation nationale propose également 10 heures d'apprentissage par an, du CP à la classe de 3e, qui vont être spécifiquement consacrées à ce qu'ils appellent prévention harcèlement scolaire et au développement de ces fameuses compétences psychosociales. On va également avoir comme objectif la sensibilisation des familles et des personnels. On va aussi, et ça c'est un petit peu, on va dire, la nouveauté pour cette année 2023, c'est-à-dire vraiment l'amplification de cette formation d'élèves ambassadeurs. Il faut un focus sur les collégiens. Les lycéens sont pas encore mis dans la boucle. Le but du jeu ici, c'est de former des élèves volontaires à pouvoir être clairement sensibilisés sur les signes à repérer face à un élève qui va souffrir d'harcèlement scolaire, cyberharcèlement. Et en fait, on va leur demander un petit peu d'être des lanceurs d'alerte. C'est eux qui vont principalement se tourner vers les adultes référents au sein des établissements pour dénoncer en fait les situations. Et ils sont également, moi je dirais plus, encouragés, ce n'est pas une obligation, à intervenir auprès des élèves directement dans les salles de classe et la cour de récréation pour éviter l'amplification de leur isolement social et du rejet par les autres élèves. Donc voilà la fiche officielle du programme phare. Alors moi, il y a plein de choses que je trouve très positives de ce programme parce qu'on s'est beaucoup basé sur ce qui fonctionne dans les programmes de lutte contre le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement des pays européens et notamment aussi internationaux, Canada, États-Unis. Mais il y a encore des choses à travailler. Notamment quand moi, on me parle de sensibilisation de famille, c'est un peu flou. Voilà. D'où l'intérêt de commencer un petit peu à vous présenter ce que le psychologue, lui, peut apporter en complément à ce que l'éducation nationale propose. Donc maintenant, si on parle un peu plus de ce repérage de ce phénomène, donc je me suis focalisée sur les victimes, on va commencer un petit peu par parler de leur santé physique. Alors on va avoir du coup tous les symptômes physiques de l'anxiété. Palpitations, tachycardie, tremblements, transpiration excessive, acouphènes, vertiges, migraines. On va avoir des jeunes qui présentent beaucoup de troubles du sommeil, difficultés d'endormissement, insomnie, réveil nocturne, beaucoup de terreur nocturne également. Donc là, on quitte le cauchemar, on arrive vraiment dans de la terreur nocturne qui amène beaucoup d'angoisse. On n'y pense pas forcément, mais la littérature et les observations cliniques sont claires là-dessus. Des problèmes de peau, beaucoup d'eczéma, beaucoup de dermite, des jeunes qui ont des problèmes récurrents à différentes parties du corps. Les motifs de consultation, beaucoup en lien aussi avec une prise ou une perte de poids inexpliquée, qui va être plus ou moins égale à au minimum 10% du poids de forme. Et ici encore, ce sont des signes dont on ne pense pas forcément, mais ce sont des jeunes qui vont à un moment donné souffrir d'incontinence, de mycose vaginale pour les filles, mais des problématiques chroniques. Et ici, on va vraiment parler de cercle vicieux de la psychosomatisation. Ça veut dire quoi ? Un jeune qui souffre de ces différents troubles dont je vous parle, alors la liste bien sûr est non exhaustive, qui va voir son médecin généraliste ou un spécialiste, il va y avoir le médicament, la petite crème qui ira bien, mais au bout de quelques jours, le problème va revenir. Et ça va se réitérer, parfois sur quelques semaines, quelques mois et quelques années. Donc ce sont des jeunes qu'après, on retrouve un petit peu sur le versant un peu plus santé mentale, parce qu'à un moment donné, on a pointé du doigt que le problème n'était pas de l'ordre du physique, du somatique. Au niveau de ces conséquences et de ces motifs de consultation sur la santé mentale, donc on va reparler de ces troubles anxieux avec ici le versant un peu plus émotionnel et psychologique, avec tout ce qui va être autour des attaques de panique, crise d'angoisse. Ici, je rebondis sur ce que M. Michel a pu dire, parce qu'effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont des jeunes qui vont à l'école tous les jours, ou du moins qui sont censés aller à l'école tous les jours, et qui vont énormément souffrir de déficits de l'attention, de la concentration, de la mémoire, qui ne sont plus en capacité même d'écouter 5 minutes de cours, en fait. Et ici, on va parler de chute drastique de résultats scolaires, et c'est souvent dans 9 situations sur 10, en tout cas dans moi, ce que je vois passer en pédopsie ou en libéral, c'est ça qui va motiver les parents à se précipiter vers la consultation psy, parce que les notes ne vont plus, donc là, tout va mal. Par contre, au niveau de toutes les petites vignettes dont je vous présente là, c'est pas encore suffisant pour aller creuser, quoi. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Ce sont des jeunes qui vont énormément être repliés sur eux-mêmes, qui vont être isolés. Sur du moyen et du long terme, mais moi j'ai presque envie de dire maintenant sur du très court terme, on va avoir des syndromes dépressifs très sévères. Moi, dans l'ensemble des cas que je vois passer tous les jours, le risque suicidaire est déjà là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont des jeunes qui, par moment, poussent la porte d'un service hospitalier ou d'un cabinet libéral à cause des comportements agressifs qu'ils auront envers leurs parents ou la fratrie et qui va venir dénoter la personnalité, du tempérament, des façons de faire et d'être habituelles. Ce sont des jeunes qui vont chercher à tout prix à éviter tout ce qui va concerner le cyberharcèlement, les autres, le lycée, le collège, autrui, les réseaux sociaux. Donc à un moment donné, on va finir par parler de phobie. Et également, donc moi j'aime bien les mettre un petit peu en paire parce qu'une phobie n'est pas sans le TOC et le TOC n'est pas sans la phobie. Ce sont des jeunes qui, quand ils n'ont plus le contrôle sur rien, parce qu'ils se font cyberharceler H24, en fait ils essaient de reprendre un contrôle sur le peu qu'ils peuvent, à travers leur corps, à travers leur lavage excessif, à travers les checks des réseaux sociaux, et en fait qui vont basculer très rapidement également dans des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs. Ici, je vais réellement parler d'état de stress post-traumatique et ça me fait sourire parce que quand M. Michel l'a présenté, je me suis dit « Ok, on est raccord ». Parce qu'en 2018, quand j'ai proposé un petit peu ces réflexions cliniques à des cliniciens et à des personnes décisionnaires en éducation nationale, on m'a un petit peu rayonné en me disant « Bon, trouble anxieux, TOC, phobie, c'est déjà pas mal, non ? On va peut-être pas mettre d'état de stress post-traumatique derrière, c'est un peu fort. » Parce que état de stress post-traumatique, confrontation à la mort, on n'en est pas là. Bah si, parce que quand on se fait lyncher et on a une incitation au suicide tous les jours, on est confronté au quotidien par moment à ce danger de mort. Et c'est ça qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui, on tend à mettre cette problématique de plus en plus en avant pour la prise en charge de ces jeunes. Et je vais terminer pour introduire mon autre partie sur le déficit des compétences psychosociales. Alors ici, je mets plus, pas parce qu'il y a trop d'estime de soi, mais parce que l'estime de soi est vraiment la compétence psychosociale la plus bousillée dans ses conséquences de santé mentale pour les jeunes. Concernant ces fameuses compétences psychosociales, donc on est content parce que depuis 2021, on a une nouvelle définition par Santé publique France qui vient un petit peu dépoussiérer celle des années 90. Donc je vous ai mis la grosse définition ici, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail après. Moi, ce qui m'intéresse surtout, ça va être ce tableau. Donc en fait, on va avoir 10 compétences psychosociales qui vont être rangées par paire, donc des petits binômes. Savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée critique, avoir une pensée créative, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie, savoir réguler ses émotions, savoir gérer son stress. Donc ici, ce sont des verbes d'action, mais on peut retrouver l'affirmation de soi, l'estime de soi, la communication non violente. Ce que je trouve intéressant dans cette nouvelle définition, c'est qu'on va avoir un regroupement en 3 catégories. Moi, je trouve beaucoup plus adapté et très logique pour les travailler ensuite auprès de ces jeunes. Donc on va les regrouper en compétences cognitives, en compétences émotionnelles, et en compétences sociales. Donc mes travaux de thèse et les travaux de recherche à l'heure actuelle que je continue à mener ont vraiment eu cet objectif, en fait, si vous voulez, dans une première partie, de mieux comprendre ces phénomènes. Comment est-ce qu'on explique qu'un jeune harcèle, cyberharcèlent. Comment est-ce qu'on explique qu'un jeune devient et reste victime à la fois de harcèlement à l'école et de cyberharcèlement ? Et après, j'ai tenté de mettre en place une intervention éducative et sociale, donc à mon échelle. J'ai pas eu pour prétention de sortir un programme de lutte nationale. Et les conclusions de l'ensemble de mes articles de recherche ont montré que l'une des clés, vraiment, c'était les compétences psychosociales, parce que grâce à elles, on pouvait vraiment promouvoir, développer le bien-être à l'école, les comportements prosociaux, donc les comportements d'aide envers autrui, la santé mentale et physique, la bonne gestion émotionnelle, les relations positives entre pairs à l'école et en ligne. Donc finalement, qu'on revient un petit peu sur le tableau, on se rend compte que les jeunes qui par moments sont en déficit de certaines compétences psychosociales auront tendance à basculer dans le côté un peu plus auteur de harcèlement, de cyberharcèlement, et que ceux qui malheureusement subissent ce harcèlement et ce cyberharcèlement vont eux à un moment donné perdre en compétences psychosociales. Concernant maintenant tout le versant un petit peu prise en charge individuelle, donc je vais vous parler rapidement de Léa, qui est une jeune qui à l'époque avait 15 ans, qui était en classe de seconde dans un établissement privé. Donc j'aime bien le préciser, établissement privé, public, parce que par moment on peut encore avoir cette idée que parce qu'on est dans le privé, on va être un peu plus protégé. Les chiffres, que ça a été moi de mes travaux de thèse ou mes réalités cliniques, on est sur du moite-moite, hein, clairement. Donc je la reçois avec un courrier d'adressage de son médecin traitant, son médecin généraliste, qui me parle d'attaques de panique fréquentes et d'insomnie qui amène énormément de fatigue chronique et qui est en train de basculer à ce moment-là du décrochage scolaire. Au niveau du tableau clinique de base, donc pas de problème de santé physique ou d'antécédents psychologiques ou psychiatriques, donc c'était la première fois qu'elle rencontrait une psychologue à ce moment-là. Donc très rapidement, une fois que le lien de confiance, la fameuse alliance thérapeutique, se crée avec elle, elle nous explique en fait subir du cyberharcèlement sur deux principales plateformes, pardon, Instagram et TikTok, depuis un an de la part de trois de ses meilleurs amis. Ça a commencé bêtement. Donc c'était à la suite d'une soirée, fille, garçon, invité, l'une de ses trois meilleures amies l'a accusée de draguer en fait son copain. Donc ça, c'est un samedi soir. Dès le dimanche matin, ces rumeurs ont eu pour conséquence des lynchages en ligne, des menaces de mort par SMS et via des messages vocaux quotidiens. Donc quand moi je l'ai rencontré, on en était à peu près à 50 par jour, ce qui était énorme. C'est-à-dire que moi, généralement, je fais des petits clouds pour mes patients, comme ça ils peuvent déposer un petit peu leur tout ça, pour avoir comme une sorte de coffre-fort sécure au sein du cabinet. Il a fallu que je retravaille la capacité de stockage pour elle, pour vous donner une idée. On avait également des stories sur Instagram qui étaient à valeur insultante et dégradante. Il y avait énormément de montages photos d'elle, en fait. On prenait des photos clairement à caractère pornographique et on mettait sa tête dessus. Il y a même, pour la petite anecdote, à un moment donné, une vidéo qui a été faite. Et en fait, les gens partaient du principe que « Ah, bah c'est une vidéo, donc c'est forcément vrai. » Donc, je ne sais pas si vous savez, mais on peut également photoshopper des vidéos. Il y a eu également la création d'une chanson parodie d'elle sur TikTok qui a eu plus de 8000 likes en quasiment 10 jours de temps. Et ici, je rajoute avec le petit astérisque qu'on avait des croche-pieds, des insultes et des moqueries au lycée. Et ici, ça me permet vraiment de faire le parallèle. Des fois, on me pose la question, mais est-ce que cyberharcèlement égale harcèlement à l'école, forcément ? Ben, vous passez vos soirées à insulter quelqu'un, difficile le lendemain de lui demander comment elle va et de prendre de ses nouvelles. Donc, moi, au niveau des conséquences que j'ai pu évaluer, c'était un trouble anxio-dépressif avec attaque de panique et idées suicidaires. Des scarifications au visage. C'est-à-dire qu'en fait, elle se scarifiait au niveau du visage et elle se maquillait fort avec le fond de teint. Donc, ses parents n'avaient rien vu. Et c'est moi, un petit peu en discutant sur ses conséquences, qu'elle a fini par baisser un petit peu le tour de cou avec le col roulé. Et que là, elle m'a dit, ben, si tu veux, je te montre. Le fameux trouble du sommeil pointé du doigt par le médecin généraliste. Donc, on a identifié insomnie et terreur nocturne pour elle. De l'agressivité envers ses parents. Donc, c'est ça qui avait justifié, en fait, la consultation. Sa maman n'était pas persuadée que tout ce qui était insomnie et attaque de panique était en lien avec un vrai problème de santé mentale. C'est l'agressivité qu'elle avait envers eux, parents, et la petite sœur, qui a fait qu'ils n'en pouvaient plus à la maison et qu'ils ont décidé de se tourner vers un psychologue libéral. On avait une phobie scolaire avec un absentéisme qui, clairement, explosait les scores. Moi, ce qui me questionnait à ce moment-là, c'est que, voilà, on a une élève qui est censée avoir, 20 heures de cours par semaine, 15 heures de cours. Elle vient que 3 heures. Ça pose problème à personne. Et ces fameuses compétences psychosociales, une chute drastique de l'estime de soi et de la confiance en soi. Au niveau de ce que je vais proposer en termes de prise en charge individuelle, donc on a évalué tout ce que je vous ai cité avant. On n'oublie pas notre métier de base en tant que psychologue. Le soutien psychologique et un gros travail sur ce que moi j'appelle reconnaissance et acceptation du cyberharcèlement. Il y a une époque, je disais reconnaissance, acceptation du statut de victime. Mais rien que de dire ça, vous les perdez, en fait. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts à entendre qu'ils peuvent être victimes. Là, c'est le versant un peu plus TECC, donc une thérapie cognitive pour travailler autour des pensées et des croyances négatives qui se créent. Parce qu'à un moment donné, vous passez vos nuits, vos soirées à lire une quantité, mais pas, même pas possible de chiffrer, qui vous explique par A plus B que vous êtes nul, vous êtes grosse, vous valez rien, que la Terre serait mieux si, clairement, vous seriez plus là et vous suicideriez. On finit par croire au fait qu'on vaut rien et que clairement les autres, même ses parents, sa sœur, seraient mieux sans elle. Et on a beaucoup travaillé sur le savoir mieux résoudre les problèmes pour justement se dépatouiller au quotidien avec tout ça. Donc sur des toutes petites actions. Ok, je rentre dans le réfectoire, on est là et on menace de me balancer mon plateau. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Donc un vrai décortiquage de chacune de ces actes au quotidien de harcèlement. Alors bien sûr, je mets le etc. parce que ce sont des exemples, juste pour un petit peu avoir une vue d'ensemble. Au niveau de la thérapie émotionnelle, donc on a beaucoup travaillé, bien sûr, cette fameuse gestion émotionnelle. J'ai également formé Léa à tout ce qui est technique de relaxation et de méditation pleine conscience pour pouvoir gérer au quotidien ces attaques de panique. Et au niveau de la thérapie comportementale, ça avait été un gros travail sur l'affrontement, ce qu'on va appeler, nous, en TCC, de l'exposition, à toutes les peurs issues de ce cyberharcèlement. Peur de sortir de chez elle, peur des autres, peur d'aller au lycée, peur de se connecter sur ses réseaux sociaux, même parfois de se connecter sur Pronote. Je ne le mets pas ici, mais rien que de cliquer sur un lien et de se dire « Ok, à un moment donné, même les profs pourraient peut-être s'y mettre, parce que de toute façon, personne ne réagit au lycée. » Il y a un gros travail sur cette estime de soi pour réapprendre qui on est au-delà de ce cyberharcèlement. Et sur cette affirmation de soi à travers le savoir communiquer efficacement. On ne se laisse pas faire, mais on ne bascule pas non plus dans de l'agressivité. Donc ici, je pointe vraiment du doigt en bleu l'importance de ces compétences psychosociales qui seront à travailler à la fois en individuel et on va y venir au collectif. Donc pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble sur ce que représente ce type de prise en charge, donc c'est à peu près 2 séances dans le mois. Moi, je fais beaucoup parce que je suis formée à la téléconsultation. Donc, ça permet aux jeunes, quand ils cumulent une journée, deux journées au collège, au lycée, ils s'en sont pris plein la tête. Le mercredi, OK, on ne peut pas se déplacer, mais à la fin des cours, on peut peut-être mettre une téléconsultation plus facilement qu'au cabinet. Il ne faut pas oublier les contacts avec les parents, la famille, et moi, ce que j'appelle des séances familiales. Ce n'est pas une thérapie familiale à ce moment-là. Le but du jeu, c'est de les prendre en entretien pour discuter entre adultes, à la fois leur expliquer clairement ce qu'on fabrique en séance individuelle et les inclure pour pouvoir leur donner des tips, des conseils, des outils pour qu'eux aident à la fois à la maison et pour faciliter aussi le retour à l'école. Et ça, c'est le petit plus, une séance de groupe thérapeutique spécial cyberharcèlement scolaire avec 5 autres jeunes au cabinet, donc une fois par mois. C'est là où je fais le parallèle avec les prises en charge collectives. Donc pour les jeunes, ce qu'on propose au cabinet, donc c'est animé par un ou une psychologue du cabinet, ça va être un groupe thérapeutique, une fois par mois, qui va leur permettre, d'une au début, de mieux comprendre le phénomène. Pourquoi moi? Pourquoi je suis cyberharcelée? Le fameux soutien psychologique qui revient. On va beaucoup travailler avec eux la résolution de problèmes, mais avec la force du groupe. Ce n'est pas seulement moi, à ce moment-là, qui travaille avec eux, c'est le groupe entier, on réfléchit ensemble. C'est pour ça que des fois, moi, j'aime bien plutôt prendre le rôle d'animatrice que de psychologue, parce que c'est eux qui nous font un petit peu le groupe et la séance. Et ça, c'est le petit plus que j'ai mis en place par rapport à, clairement, ce qui ressort des études théoriques. C'est, je vais leur proposer un apprentissage coopératif par les pairs, notamment par un modèle. Donc, en fait, j'invite un jeune qui était anciennement cyberharcelé, que moi j'ai pu accompagner et pour lequel la prise en charge est terminée et tout va bien, qui vient et qui leur parle un petit peu de son vécu et clairement qui leur exprime qu'est-ce qui lui l'a aidé et comment est-ce qu'aujourd'hui il fait pour se protéger sur ses réseaux sociaux. Ce qu'on va également leur proposer en dehors de ces groupes de parole, ça va être des ateliers thématiques sur des thématiques très spécifiques. Donc le développement de l'estime de soi pour mieux se connaître, le développement de l'affirmation de soi pour mieux se défendre et se protéger à l'école ou en ligne, et notamment sur ses réseaux sociaux, et le apprendre à mieux gérer ses émotions. Donc par moments, ce sont des séances spécifiques sur l'anxiété, d'autres fois la colère, d'autres fois la peur. Ça peut être également de la tristesse quand le besoin s'en fait ressentir. Donc là, ce sont des ateliers qui durent à peu près 2h30. On fait ça sur les mercredis après-midi ou les mercredis en fin de journée. Et on propose et on répond surtout aux demandes et aux besoins. Donc nos plannings sont très adaptés à ces demandes. On va un petit peu plus loin également. On vient chercher les parents et les professionnels avec des ateliers thématiques spécifiques cyberharcèlement. Donc on forme sur cette problématique pour prévenir et agir. Ça veut dire quoi ? On définit, on chiffre, on parle des conséquences, des signes à repérer. On fait des petits points sur la loi, concrètement. Donc on a des réseaux, des contacts aussi pour les accompagner à ce niveau-là. Et on leur propose de se former à des outils pour pouvoir aider les jeunes, leurs jeunes à s'en sortir. Et c'est à ce moment-là que je me remets une couche sur les compétences psychosociales, où en fait on travaille beaucoup l'éducation à l'empathie, à l'esprit critique, notamment via des témoignages et des jeux de rôle, de façon pratico-pratique. Donc moi j'aime bien quand les groupes sont faits d'enseignants ou de professionnels de l'éducation nationale, de leur faire prendre un rôle de jeunes harcelés, cyberharcelés, et de leur montrer à quel point, on a beau avoir 30 ans, 40 ans, on ne sait pas plus qu'un jeune qui a 15 ou 16 ans. On forme également sur tout ce qui va être les nouvelles technologies d'information et de communication, donc les NTIC, avec un gros focus sur les réseaux sociaux. Et le but pour moi ici, c'est de clairement faire en sorte que, à un moment, les adultes redeviennent un petit peu experts de ces plateformes pour être dans l'éducation aux médias et aux informations. Et en fait, à un moment donné, aider le parent à comprendre que, OK, votre gamin, il a 15 ans, vous lui faites confiance, mais vous n'avez même pas idée de ce qui se passe, ne serait-ce que sur le TikTok, avec la petite danse qui va bien ou la petite chanson qui parodie. Donc on ne part pas du principe que les gens sont nuls, on part du principe qu'il faut apprendre, et puis on y va, progressivement. Je vous ai mis quelques éléments de bibliographie. Le programme un petit peu plus défini sur le programme phare de l'éducation nationale. Des petits dossiers un peu plus complets pour mieux comprendre les compétences psychosociales. Je vous ai mis la revue de la littérature que j'ai écrite en 2017, qui a en fait tenté de comprendre quel était le poids et l'impact de ces compétences psychosociales dans les programmes de lutte contre le harcèlement scolaire. Donc on a une grosse revue de la littérature qui a balayé entre 1996 et 2016 tous les programmes mondiaux européens de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Quelques bouquins pour lire un petit peu. Et ici, je vous ai également mis un rappel à la loi. Concrètement, que dit la loi aujourd'hui ? Délit depuis 2022, enfin, concrètement. Et quelques petits liens YouTube avec des vidéos pour mieux comprendre l'impact de ce cyberharcèlement. Je vous préviens un petit peu, ce sont des vidéos qui secouent, des émissions qui sont très poignantes. Mais je trouve que, moi, quand je les ai regardées, ces émissions, c'était les choses les plus réelles, les plus concrètes par rapport à ce que je vois au quotidien. Donc si vous avez vraiment envie d'entendre des parents et des jeunes parler de leur vrai vécu, en quittant les textes, en quittant les recherches, il faut aller jeter un petit coup d'œil. Et pour finir, parce que j'ai beaucoup parlé du cadre libéral, mais on ne travaille jamais seul, et encore moins libéral, donc là je vous ai mis un petit peu tous les réseaux, et puis le petit rappel à la loi pour, en cas de situation clairement bloquée, en tant que psychologue, information préoccupante. Et je terminerai, je ne sais pas si c'est possible, avec la petite vidéo, et si l'autre c'était toi. Donc là, c'est la version courte, la version longue est sur le site de l'Éducation nationale.
Et si l'autre, c'était toi.
Qu'est-ce que c'est de
Je savais pas que tu faisais tout ça.
Élève, parent, professionnel, en cas de harcèlement, appelez le 3020. En cas de cyberharcèlement, le 3018.
Et je vous remercie pour votre attention.